Alors, dans notre étude sur les raisons de croire en Dieu, pourquoi je crois, les raisons de croire en Jésus-Christ, nous étions en train de voir la dernière fois comment Dieu, eh bien, s'est révélé dans le fait que Christ lui-même, hein, Dieu s'est révélé à l'humanité dans le passé par des apparitions, hein, que ce soit celles qu'on appelle des théophanies ou des christophanies ou Dieu a communiqué de manière audible, de manière intelligible, de manière à ce que ben, ce qu'il avait à communiquer, ben, les personnes puissent bien comprendre et saisir ces choses-là. Et donc nous sommes en train de voir maintenant, ce soir, l'incarnation de Dieu, l'incarnation de Jésus-Christ. Parce que oui, la foi chrétienne, comme on l'a déjà dit la dernière fois, elle repose sur le fait que Dieu s'est révélé à l'humanité en la personne de Jésus-Christ. Donc c'est ce que nous appelons l'incarnation en théologie, hein, c'est que Dieu s'est révélé sous forme humaine, mais bien plus encore, il est devenu homme. Et ça, c'était quelque chose vraiment d'extraordinaire. On va prendre le temps de relire ce premier chapitre de l'évangile de Jean. Jean chapitre 1er, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point reçue. Ne l'a point connue, pardon. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qu'il a fait connaître. Alors, quand on parle d'incarnation, qu'est-ce que c'est exactement? Bon, l'incarnation, c'est un mot qui n'apparaît pas dans la Bible. Mais ça ne veut pas dire que la Bible n'en parle pas. Hein, il s'agit d'une formulation, hein, d'une réalité théologique, qui se trouve dans les Écritures saintes, à savoir que Dieu est devenu un être humain, à un moment donné, précis, dans l'histoire de l'humanité, Dieu s'est incarné, il est devenu un être humain. Donc l'incarnation, c'est cette doctrine selon laquelle, eh bien, la seconde personne de la divinité, à savoir Dieu le Fils, s'est révélée à l'humanité en devenant un être humain. Et c'est vraiment quelque chose qui est difficile à comprendre, n'est-ce pas? Comment Dieu, qui est éternel, Dieu qui est esprit, comment a-t-il pu devenir, eh bien, une créature? Comment a-t-il pu devenir quelque chose de matériel, de physique? C'est un mystère. Et c'est toujours difficile d'essayer d'expliquer comment même Christ a possède ces deux natures en lui. Il est Dieu et il est homme. Moi, j'essaye avec cette illustration qui, je sais, qui n'est pas forcément la meilleure possible. Hein, plusieurs personnes savent ici que bon, moi, j'ai une double nationalité. Hein, de par ma naissance, de par mon père, de par ma mère, j'ai une double nationalité. Hein, je suis français, je suis aussi américain. Et je sais que on m'a souvent posé la question, alors, tu te sens quoi? Plus français ou plus américain? Et c'est toujours bizarre parce que c'est difficile de répondre à cela, parce que moi j'ai grandi déjà dans une culture qui était, on va dire, mixte, dans le sens où dans la famille, on avait un peu de culture française et on avait un peu de culture américaine. Et bon, c'était un peu notre propre culture que nous avons créée. Mais le fait est que, voilà, légalement, je possède ces deux nationalités, ou si vous voulez, ces deux natures. Tout comme Christ, bah, qui possède cette nature divine et cette nature humaine, eh bien, il est Dieu de toute éternité, mais il est devenu humain à un moment donné dans l'histoire de l'humanité, et on le verra pour un but, un objectif très, très, très précis. Mais ce qu'on peut déjà noter à ce moment de notre étude, c'est que Dieu le Fils s'est révélé déjà. Hein, dans l'ancienne alliance, on en a parlé la dernière fois, sous ce qu'on appelle des christophanies. Mais à ce moment-là, il ne possédait pas cette nature humaine encore. Cette nature humaine, c'est vraiment au moment de sa naissance que Dieu le Fils, eh bien, a reçu cette nature humaine, hein, qui soit devenue un être humain. Alors, la doctrine chrétienne de l'incarnation, immanquablement, elle est liée à celle de la Trinité, n'est-ce pas? Parce qu'on parle du Fils, hein, la seconde personne de la Trinité, qui est devenu un être humain. Et dans la Bible, le Dieu unique qui se révèle à nous, eh bien, il l'a fait sous ces trois personnes, hein, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et lorsque nous parlons de Dieu existant en trois personnes, là aussi, c'est un mystère. Moi, pour moi, c'est encore plus compliqué d'essayer d'expliquer la Trinité, hein, comment est-ce que c'est quelque chose qui soit possible. Et je sais qu'on a eu toutes sortes de tentatives d'explication, et généralement, on essaie de montrer un triangle, que chaque côté est égal, etc. Mais bon, le problème, c'est qu'on illustre le triangle comme étant Dieu, mais ce qu'on lit et ce qu'on comprend dans les Écritures, c'est que chaque personne de la divinité est Dieu, n'est-ce pas? Et par cela, donc, nous voulons dire que l'existence de Dieu, bon, elle est composée de ces trois entités distinctes, d'intellect, d'émotion, de volonté, j'ajouterais même de responsabilité, hein, de rôle, si vous voulez. Et chacune de ces personnes est Dieu. Mais chacune est une personne distincte, coégale, coéternelle. Et ça pourrait faire, encore une fois, l'objet de toute une étude sur ce sujet-là, mais ce n'est pas notre objectif ce soir. Ce que nous voulons montrer ce soir, c'est surtout le fait que cette incarnation, qui est quelque chose d'extraordinaire, qui est quelque chose qui nous est présenté directement dans la parole de Dieu, c'est probablement la doctrine la plus contestée en dehors du christianisme. Alors il est vrai que, bon, il y a certains chrétiens qui débattent encore sur, bon, la nature de Christ. Je sais qu'il y a certaines sectes qui vont, par exemple, dire que, bon, Jésus, il est devenu Dieu à un moment donné, que Jésus, homme, à un moment donné, bon, rempli du Saint-Esprit, c'est là qu'il devient Dieu. Bon, il y a toutes sortes de théories que moi je trouve un peu farfelues, parce que ce que je vois dans les Écritures, ce n'est pas ça. Ce qui nous est présenté, c'est que, eh bien, Jésus-Christ a toujours été Dieu. Ce que nous venons de lire dans Jean chapitre 1er, par exemple, c'est assez, pour moi, incontestable quand on dit au commencement était la parole, et on comprend que Jean, quand il parle de la parole, il parle de Jésus-Christ, il dit que la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et à ce moment-là, c'est-à-dire, s'il est Dieu, c'est qu'il a toujours été Dieu. Hein, la caractéristique, une des caractéristiques les plus importantes au sujet de Dieu, c'est justement qu'il est éternel. Il n'a ni commencement, ni fin. Alors oui, on dissocie peut-être en théologie, on va parler de Jésus-Christ homme. Lui, le Jésus-Christ homme, à un moment donné, il y a une existence, hein, qui s'est formée. Mais Jésus, le Fils de Dieu, a toujours existé. Mais cependant, bon, si ces religions, hein, comme le judaïsme et l'islam, hein, pour qui l'incarnation de Dieu constitue un blasphème, parce que dans ces religions, elles ne peuvent pas comprendre comment Dieu déjà puisse exister en plusieurs personnes, et encore moins que Dieu puisse avoir un fils qui se soit incarné. Alors donc, c'est vraiment une doctrine qui est contestée. Hein. Je crois que c'est probablement une des premières choses que si on va interagir avec un musulman et essayer de présenter l'évangile, bon, leur point de vue à eux, c'est que Jésus était qu'un homme, c'était un bon prophète, mais rien de plus. Et que pour eux, l'idée que Dieu puisse avoir un fils, ça implique certaines choses que Dieu ne saurait faire en tant qu'esprit, mais la Bible nous montre que cette incarnation qui s'est produite avec la naissance de Jésus-Christ, il n'y a pas eu une interaction physique ou quoi que ce soit, c'est par la puissance de l'Esprit-Saint. Dieu est tout-puissant. S'il est capable de créer à partir du néant tout un univers par le simple biais de sa parole, pourquoi ne pas croire que Dieu est capable de produire en une femme un enfant et qui naisse des mois plus tard? Ce qu'il faut voir aussi, c'est que le christianisme n'a pas rabaissé Dieu à l'être humain, ni même à chercher à élever l'être humain à Dieu. Certaines religions, c'est un peu leur pensée, leur mouvement, que voilà, on peut atteindre la divinité hein, par des actions, par des œuvres, etc., par une sorte de qualité de vie. Mais le christianisme n'est pas en train d'enseigner cela. Ce qu'enseigne le christianisme, au contraire, hein, c'est que les déclarations hein, bibliques atteste que Dieu s'est volontairement abaissé. Ce n'est pas l'être humain qui a cherché à, tiens, on va mettre Dieu à notre niveau. C'est Dieu lui-même qui a pris cette décision, donc sur une base volontaire, de s'abaisser en devenant un être humain. Donc cette doctrine n'est pas une invention humaine, mais c'est une révélation divine. Et c'est ce que précisément nous sommes en train de voir dans cette étude, c'est que Dieu s'est révélé à l'humanité. Et l'incarnation a été probablement la plus grande révélation de toutes au sujet de Dieu. Rappelez-vous de ce que nous venons de lire dans Jean chapitre 1er au verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Or, nous allons voir, bien sûr, différents objectifs et raisons pour lesquelles Dieu a choisi hein, de volontairement s'abaisser à devenir un être humain. Et on va voir qu'il y a des implications qui sont multiples et qui sont extraordinaires et qui nous amènent à glorifier Dieu pour cette incarnation. Mais je voulais partager aussi donc ce passage de Philippiens, chapitre 2, hein, les versets 5 à 8. Connaissons bien ces versets, hein, ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu. Donc il y a une déclaration hein, que Jésus, il est Dieu, il est l'égal hein, du Père. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc voilà ce que Paul nous dit ici dans ce passage d'Éphésiens. Bien sûr, c'est pour nous inciter, nous, hein, à développer ces mêmes sentiments d'humilité et de service que Jésus-Christ a eu. Mais en même temps, il nous parle, eh bien, de cette incarnation que Christ est Dieu et qu'il a choisi de manière volontaire, eh bien, de s'abaisser à devenir un serviteur et de s'humilier, lui, le Dieu créateur, lui qui est la vie, et s'est humilié en devenant un être humain, une créature, et ce, même jusqu'à la mort de la croix. Ce que je voulais également souligner, qui est extrêmement important, c'est que c'est une doctrine qui est évidente. Hein, pour celui qui lit la Bible, l'incarnation est une doctrine évidente qu'on ne peut pas nier. Si on veut essayer de comprendre ce qu'est le christianisme et comprendre qui est Dieu, ce qu'il a fait pour nous, c'est une doctrine qui ne peut pas être contestée. Parce que déjà, elle a été annoncée même dans l'Ancien Testament. Parce qu'en plus du signe miraculeux hein, de la naissance virginale, la prophétie que nous avons dans Ésaïe 7,14 nous parle hein, de ce fils hein, qui allait naître d'une vierge et que ce fils serait donc appelé Emmanuel, Emmanuel dont la signification, vous le savez, est Dieu avec nous. Donc on a déjà, avec cette prophétie qui concerne la naissance du Messie, hein, ce signe extraordinaire qui serait né d'une vierge, mais surtout, par le nom qui est donné, tout en sachant que dans les Écritures, les noms qui étaient donnés avaient beaucoup d'importance et avaient des significations. Souvent, c'était lié à un événement de la vie, hein, d'une personne. Mais là, on a ce nom qui est choisi, Emmanuel, Dieu avec nous. Donc, il y a déjà une annonce qui est faite que comment est-ce que Dieu va être avec nous? Ben, si on lit le verset, il parle d'une vierge qui va avoir un fils. Donc, on a déjà ici, eh bien, une annonce concernant l'incarnation de Dieu. Ensuite, on peut regarder aussi ce passage d'Ésaïe, chapitre 9 et verset 5, où il est question encore une fois, hein, du Messie, hein, l'enfant prophétisé, hein, qui est né ici. Il est né. S'il est né, il est humain. Mais regardez bien comment il est appelé, cet enfant qui est né. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, et notez bien cela, Dieu puissant. Dieu puissant. Et alors, ça déjà, ça nous indique la qualité divine de ce fils, mais également Père éternel. Alors, tous ceux qui croient que Jésus est devenu Dieu à un moment donné, expliquez-moi ce terme de Père éternel. Et donc, cette doctrine, on la retrouve dans l'Ancien Testament, et bien sûr, bon, dans le Nouveau Testament, comme nous le venons de le lire dans l'Évangile de Jean, cette doctrine, elle est confirmée, elle est déclarée. Hein, le passage de Jean chapitre 1er nous enseigne cette doctrine de l'incarnation en désignant Jésus comme étant cette parole qui a été faite chair, et en indiquant clairement, hein, la nature divine de la parole, et qui ne laisse aucun doute possible quant à la déclaration faite par Jean au sujet de Jésus-Christ. La parole était Dieu, hein, verset 1er. Verset 14, la parole a été faite chair. Elle habitait parmi nous, pleine de grâce, de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme une gloire, eh bien, comme une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc le fait que Dieu le Fils soit devenu un être humain n'enlève en rien sa divinité. Et on verra qu'il était essentiel que cette qualité divine, elle soit là. Dans les buts et les objectifs de l'incarnation, hein, nous allons voir qu'il était essentiel que Jésus soit à la fois homme et qu'il soit à la fois Dieu. Mais ça nous montre aussi que, voilà, puisqu'il est Dieu, il a pu être parfait en toutes choses, il a été sans péché, ce qui fait de Jésus-Christ, eh bien, l'être humain par excellence. L'être humain parfait. Et en Jésus-Christ, donc, nous avons cette union parfaite, hein, de l'être humain et de Dieu, parce que Jésus est entièrement Dieu, entièrement humain. Et ce que je voudrais, encore une fois, souligner, c'est que plus tard, on regardera, hein, aux raisons pour cette incarnation, mais rappelez-vous, gardez à l'idée que, voilà, Dieu s'est révélé en Jésus-Christ. Et pour se révéler en Jésus-Christ, déjà, il fallait que Jésus-Christ lui-même soit Dieu. Hein, pour qu'il puisse nous montrer qui est Dieu. C'est lui qui nous l'a fait connaître. Alors, quelles sont les preuves de l'incarnation de Dieu? Parce que c'est sûr que nous sommes en train de présenter la Bible, présenter son message, nous la reconnaissons comme étant la parole de Dieu, et nous la proclamons comme telle, mais on a toujours cette question qui va nous être posée, à savoir, Jésus a-t-il réellement existé? Alors, c'est une question qui est importante à se poser. Parce que déjà, bon, nous sommes en train de proclamer que Jésus, oui, a existé, que Jésus, il est Dieu. Mais la première chose que nous allons devoir être amenés à défendre, parfois, c'est le fait que Jésus a réellement existé. Parce qu'il y a des gens qui doutent. Et on vit à une époque où les gens doutent, mais alors de tout. Et en général, quand cette question est posée, la personne qui la pose, ce qu'elle demande, en fait, c'est elle veut des preuves, mais elle veut des preuves extérieures à la Bible. Bon, déjà, j'aimerais juste dire que, bon, c'est vraiment dommage de mettre de côté la Bible, qui est un document ancien, qui contient le témoignage de plusieurs personnes, qui ont attesté de l'existence de Jésus-Christ, mais aussi attesté de cette déclaration concernant sa divinité. C'est un document qui est remarquablement fiable, hein, sur le plan historique, mais donc par souci, hein, de répondre à cette question-là, Jésus a-t-il réellement existé, mais en mettant de côté le texte biblique, il faut savoir que on a le témoignage de multiples personnes non chrétiennes, des historiens d'origine païenne, juive, qui ont parlé de Jésus-Christ. Et donc la réalité de la personne historique de Jésus de Nazareth, elle ne peut pas être sérieusement contestée parce que l'histoire profane atteste de la réalité qu'il y a eu un homme, Jésus de Nazareth, qui a vécu en Israël il y a ça de plus de 2000 ans. Nous avons par exemple Tacite, qui est un Romain, hein, du 1er siècle, considéré comme l'un des historiens les plus précis du monde antique, il mentionne les chrétiens, hein, comme étant des personnes superstitieuses, mais aussi qui avaient souffert sous la main de Ponce Pilate, mais aussi pendant le règne de Tibère. Hein, il décrit également l'incendie, hein, qui eut lieu à Rome en l'an 64 et que bon, Néron, hein, avait injustement accusé les chrétiens d'avoir incendié Rome, alors que c'est lui qui avait incendié Rome, hein, pendant dans ses grands délires de grandeur. Mais il explique que les chrétiens étaient devenus justement les boucs émissaires de Néron, hein, qui les avait accusés de provoquer ce feu, cet incendie qui a ravagé Rome. Il dit ceci, Tacite, le nom de chrétien leur vient du nom de Christ, qui fut condamné sous le règne de Tibère par le procureur Ponce Pilate. Donc on a déjà là une première trace écrite, historique, d'une source qui n'est pas chrétienne. Nous avons Suétone, qui lui a vécu à la fin du 1er siècle, au début du 2e siècle, et qui était le secrétaire en chef de l'empereur Adrien, et il a écrit ceci. Il dit, comme les Juifs ne cessaient de troubler la cité sur l'instigation d'un certain Christus, alors il, à savoir Claude, hein, les chassa de Rome. Il livra au supplice les chrétiens, race adonnée à une superstition nouvelle et coupable. Alors même si ces témoignages, on va dire, sont péjoratifs dans le sens où ils parlent mal et accusent les chrétiens, on a des traces historiques que les chrétiens existaient dès ces temps-là et qui eux-mêmes attestent que, bah, il y a eu un homme, hein, Jésus, qui a été condamné, hein, Christ qui a été condamné, hein, sous le règne de Tibère. Alors comme Suétone le rajoute aussi, hein, il livra au supplice les chrétiens, hein, race adonnée à une superstition nouvelle et coupable, on a également, hein, des témoignages, comme j'ai dit, qui viennent de sources qui sont païennes, mais aussi d'origine juive. On a Flavius Josèphe, qui est un historien juif, qui est probablement le plus connu dans ce domaine-là. Et dans son ouvrage, Ses Antiquités, il fait notamment référence à Jacques, hein, en disant de lui qu'il était le frère de Jésus, qui était appelé Christ. Mais il dit ceci également. Il dit, or, il y avait à cette époque-là, Jésus, un homme sage, permis, pardon, de l'appeler homme, car il accomplissait des prodiges surprenants. Il était le Christ. Il leur apparut vivant le troisième jour, comme les divins prophètes l'avaient prédit, et 10 000 autres choses merveilleuses le concernant. Pline le Jeune, hein, dans ses lettres, il a rapporté les premières pratiques, hein, du culte chrétien, y compris le fait que les chrétiens adoraient Jésus comme Dieu et étaient très éthiques. Inclut même une référence, hein, aux agapes et à la Sainte Cène dans ses écrits. On a le Talmud de Babylone, un ouvrage qui, lui, bon, il date un peu plus, hein, du 6e siècle après Jésus-Christ, mais encore une fois, c'est des ouvrages qui viennent du judaïsme, qui confirment la crucifixion de Jésus à la veille de la Pâque et les accusations contre le Christ de pratiquer la sorcellerie et d'encourager l'apostasie juive. Lucien, hein, de Samosate, qui était un écrivain grec du 2e siècle, il a admis ceci. Il dit, Jésus était adoré par les chrétiens, qu'il a introduit de nouveaux enseignements, et qu'il a été crucifié pour eux. Il a déclaré que les enseignements de Jésus comprenaient donc la fraternité des croyants, l'importance de la conversion et l'importance de renier les autres dieux. Et les chrétiens vivaient selon les lois de Jésus et se croyaient immortels, et ils étaient caractérisés par le mépris de la mort et le renoncement aux biens matériels. Donc on a des preuves vraiment, on va dire, écrasantes d'un point de vue historique qu'il a bien eu un homme appelé Jésus, qui a vécu en Israël, hein, à l'époque de Ponce Pilate, sous le règne de Tibère, et que ces historiens profanes, eh bien, en donnant ce témoignage-là, nous montrent que on ne peut pas nier l'existence de Jésus. Et ce qui est important de souligner aussi, c'est que la vie de Jésus a eu un impact extraordinaire sur le monde entier. Et du fait de cet impact-là, hein, on ne peut pas nier non plus que Jésus a réellement existé, parce que voilà, on a les témoignages de personnes dans les Écritures qui parlent de Jésus, de ce qu'il a accompli, de ce qu'il a fait pour eux et comment ça a changé leur vie, et ça les a transformés, ça les a amenés à partager ce message et à le propager, si bien qu'aujourd'hui, bon, Jésus-Christ, même si la majorité des êtres humains le rejettent, ils comprennent et ils savent qui il est. Et on a eu à travers l'histoire un impact considérable, même du christianisme, et bien à travers le monde, dans nos cultures. Mais voilà, des preuves qui ne viennent pas de la Bible, de l'existence même de Jésus. Alors pourquoi c'est important de souligner cela? C'est parce que ce que nous allons voir, c'est que puisque on sait que Jésus a existé, maintenant on a des témoignages écrits de personnes qui l'ont côtoyé et qui ont rapporté les événements de la vie de Jésus, ses discours, hein, son enseignement, ses déclarations. Et donc Dieu voulant, c'est ce que nous verrons hein, la prochaine fois, c'est que la Bible nous montre déjà plusieurs choses au sujet de Jésus. C'est que, un, son humanité, elle est incontestable, mais alors, bibliquement parlant, sa divinité, elle est incontestable aussi parce que elle l'est proclamée. Elle est clairement proclamée dans le Nouveau Testament, hein, le fait que Jésus, il est homme et il est Dieu.